Vous pouvez prendre place et nous allons lire le texte de la prédication qui sera assez court aujourd'hui. Et nous entrons ensemble aujourd'hui dans la série sur l'épître de Jean, 1 Jean. Donc nous allons dans 1 Jean et nous lirons ensemble les 4 premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Voilà, pour voir, il faut des yeux. Pour entendre, il faut des oreilles. Et pour toucher, il faut des membres. Et spirituellement, sans l'Esprit Saint, nous n'avons quelque part rien de tout cela. Nous comptons donc sur son œuvre pour nous donner la joie de voir, d'entendre et de toucher l'enseignement qu'il veut nous donner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commençons donc une série sur l'épître de 1 Jean. Après une petite introduction, pour introduire cette épître, nous nous arrêterons sur les 4 premiers versets qui forment un préambule et qui nous aideront à répondre à une question. Cette question est celle-ci: qu'est-ce que le vrai christianisme ? Voilà, ces 4 premiers versets vont nous donner des éléments pour répondre à cette question. Mais avant, nous allons un petit peu faire connaissance avec cette épître. Eh bien, les 3 épîtres de Jean avec Hébreux sont les seuls épîtres du Nouveau Testament dont l'auteur ne se nomme pas. Vous ne verrez pas le nom de l'auteur dans Jean. Mais voici 3 bonnes raisons de croire que les 3 épîtres ont été écrits par Jean, le disciple de Jésus, qui a également écrit l'Évangile selon Jean et l'Apocalypse. Alors, première raison, c'est que si l'auteur ne se nomme pas, il affirme avoir entendu, vu et touché Jésus. Donc en fait, il a vécu en même temps que Jésus. C'est une première chose qui nous permet de faire le lien avec Jean. Deuxièmement, les premiers écrivains chrétiens, comme Irénée, Clément d'Alexandrie ou Tertullien, citent de nombreux passages de l'Épître en disant tous et en affirmant que c'est l'apôtre Jean qui avait écrit cela. Et troisièmement, donc le style et la pensée de cette épître de Jean sont très proches de ceux de l'Évangile selon Jean. Voilà donc 3 raisons qui nous permettent de dire que ces épîtres ont été écrits par Jean. Et c'est ce que je dirai tout au long de cette série. Et quel est le but de cette lettre ? Peut-être vous souvenez-vous que lorsque nous avons étudié ensemble l'Évangile selon Jean, nous avions vu qu'il avait donné le but de son Évangile vers la fin de l'Évangile. Jean 20-31, ça vous dit peut-être quelque chose. Et ceci avait été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça, c'était le but de l'Évangile selon Jean. Et l'Épître, dans l'Épître de Jean, nous avons également le but qui nous est donné en fin d'Épître. Regardez avec moi, vous avez votre Bible ouverte dans 1 Jean, on va aller voir dans chapitre 5, verset 13. Voici ce qui est écrit. « Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc l'Épître de Jean donne aussi son but en fin de lettre. « Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est intéressant de voir que pour l'Évangile et pour l'Épître, les buts sont assez similaires. Pour l'Évangile, en fait, il avait pour but que nous ayons la vie. C'est le but de l'Évangile. Et le but de l'Épître, c'est que nous sachions que nous avons cette vie. Vous voyez ? Donc le but, un but principal de l'Épître de Jean, c'est donc l'assurance chrétienne, que nous savons que nous avons cette vie éternelle. Il utilisera d'ailleurs 3 tests principaux qui nous permettront de comprendre que nous pouvons avoir l'assurance Un premier test sera le test moral, lié à la justice et à l'obéissance. Le deuxième, un test social, qui est lié à l'amour. Et troisièmement, un test doctrinal, lié à notre croyance concernant Jésus-Christ. Tout cela, nous le verrons en avançant dans cette épître où il veut nous assurer et veut que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Cette épître est donc écrite à des chrétiens. Mais dans quel contexte étaient-ils, ces gens qui recevaient cette lettre ? Eh bien, j'aimerais vous donner quelques éléments, quelques caractéristiques d'un mouvement qui influençait les églises de l'époque. Et voici ces caractéristiques. La première caractéristique, c'est que l'intelligence et la connaissance ont la suprématie. Ça, c'était quelque chose qui était enseigné. C'est l'intelligence et la connaissance qui a la suprématie. La morale n'est pas importante, ou même elle est niée. Et on verra que Jean répondra que la vie morale est une preuve de vie chrétienne et que l'intelligence et la connaissance n'ont rien apporté de plus que ce qui était déjà dès le commencement. Deuxième élément, caractéristique de ce groupe d'influence, c'est qu'ils disent que les péchés qu'ils commettent n'en sont pas. Ou parce qu'ils, quelque part, c'est en dehors de l'esprit, on en parlera encore après, c'est dans la chair, ça ne les touche pas. Donc les péchés qu'ils commettent n'en sont pas, et ils pourraient même avoir une relation avec Dieu en pratiquant des péchés. Et Jean répondra que celui qui dit qu'il ne pèche pas est un menteur et que nous ne pouvons pas entrer en relation avec Dieu en pratiquant le péché. Troisième caractéristique de ce groupe, eh bien, ils croient en une séparation radicale entre l'esprit et la matière. La matière est mauvaise, le corps, ce qu'on a, c'est mauvais. C'est uniquement l'esprit qui est bon. Et donc, Dieu n'a pas pu devenir matière. Il est seulement venu en apparence. Jésus, quelque part, est devenu ce représentant, une apparence de Dieu après son baptême, après son baptême d'eau, jusque avant sa mort où son sang a coulé. Ça, c'est ce qui était dit à l'époque. Et Jean répondra que la foi se base sur des faits historiques. Jésus-Christ est venu en chair. Il a pu l'entendre, il a pu le voir, il a pu le toucher. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'en a pas seulement pris une apparence. Donc voilà un petit peu le contexte de ces destinataires de cet épître. Et on verra que ce contexte va nous aider à comprendre plusieurs parties de ce livre par la suite. Encore quelques thèmes pour avoir une vue panoramique un petit peu maintenant de cette épître. 5 thèmes principaux que l'auteur aborde. Le premier thème, c'est que le vieil évangile, ou l'évangile du commencement, est opposé à tout autre évangile, même moderne et intelligent. La façon d'aborder l'évangile peut varier, mais pas le contenu. Le contenu ne change pas. Deuxièmement, il va souligner l'historicité de Jésus-Christ. Ce que nous croyons de Jésus n'est pas optionnel, en fait. Jésus-Christ est Dieu-homme, venant mourir pour le péché, ressuscité et monté au ciel pour bientôt revenir. Et tout cela fait partie, en fait, des croyances fondamentales du chrétien. Ce n'est pas optionnel. Troisièmement, dans un monde d'incertitude, nous sommes dans un monde d'incertitude, eh bien le sujet de l'assurance du salut est bienvenu, avec des certitudes historiques et des certitudes personnelles. C'est ce que Jean aborde durant son épître. Quatrième élément, la justice et la morale sont des caractéristiques du chrétien véritable. Et cinquième élément, c'est peut-être souvent à quoi on pense quand on pense à 1 Jean, c'est le développement du nouveau commandement de Christ, qui est l'amour des disciples les uns envers les autres, découlant de l'amour pour Dieu et de Dieu. Cette notion de l'amour est bien développée dans cet épître de Jean. Voici donc ces quelques thèmes pour avoir une vue panoramique de cette épître. Et évidemment, je n'ai pas pu toucher tous les éléments que nous allons voir dans cette épître. Mais je vous encourage à la lire régulièrement en entier. Et tout cela est écrit donc dans un style qui n'est pas, c'est vrai, pas très structuré, où nous trouvons des répétitions, on trouve des parenthèses, et où le fil des idées, quelque part, se poursuit par thèmes qui se présentent un peu comme des dominos, mais avec des rappels de ce qui a déjà été dit. Et plusieurs ont ainsi pensé que, au lieu que ce soit une lettre, hein, quelque part écrite, que c'était plutôt un sermon qui avait été prêché lors d'un baptême, car il rappelle les bases de l'engagement du chrétien. Mais la répétition dans le texte à plusieurs reprises, où il est dit « cela est écrit » ou « je l'ai écrit », nous fait plutôt penser à un écrit apologétique d'encouragement et d'avertissement face à de fausses croyances. On ne va pas maintenant voir une structure de cette épître, on pourra peut-être la voir à la fin, mais simplement, nous allons y entrer. Ça va ? Donc là, on a un petit peu fait un tour pour entrer dans cette épître, et nous allons maintenant y entrer en nous arrêtant sur ce que certains appellent la préface ou le prologue des quatre premiers versets. Donc, quatre versets dans lesquels Jean souligne l'essence du christianisme. Et nous verrons ensemble cinq sujets touchés par cette préface qui nous aidera à répondre à la question que j'ai signalée tout à l'heure. Qu'est-ce que le vrai christianisme? Puisque Jean écrit dans une situation où bien des personnes se demandaient « Mais c'est quoi le vrai christianisme ?» D'ailleurs, plusieurs étaient sortis d'église pour créer d'autres groupements. « Mais c'est quoi le vrai christianisme ?» Et c'est donc le titre aussi de cette prédication. Alors, je vais vous donner la liste de ces cinq éléments que l'on va voir, et puis ensuite, nous allons les développer. Donc, les cinq éléments, premièrement, le vrai christianisme n'a pas peur des origines. Le vrai christianisme n'a pas peur des origines. Deuxièmement, le vrai christianisme est lié à des réalités. Le vrai christianisme est lié à des réalités. Troisièmement, le vrai christianisme est centré sur une personne. Le vrai christianisme est centré sur une personne. Jésus-Christ, tout à fait. Quatrièmement, le vrai christianisme rend témoignage et annonce la vie éternelle. Le vrai christianisme rend témoignage et annonce la vie éternelle. Et cinquièmement, le vrai christianisme est une communion qui conduit à la joie. Voilà ces cinq éléments et nous allons relire ces quatre premiers versets ensemble maintenant et entrer dans donc ces différents éléments qui répondront à la question « Qu'est-ce que le vrai christianisme ?» Relisons donc 1 Jean 1, les versets 1 à 4. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. » Donc, un premier élément, le vrai christianisme n'a pas peur des origines. Jean commence son épître par l'expression « dès le commencement », ce qui était « dès le commencement », que nous retrouverons d'ailleurs encore à plusieurs reprises dans l'épître. Si vous lisez l'épître, vous allez le retrouver encore, je crois, encore six fois. Ce « dès le commencement », il y tient. Et cette expression « dès le commencement » fait le lien avec l'origine de l'humanité. Dès le commencement. Ça fait le lien avec l'origine de l'humanité par allusion et souligne l'origine du christianisme. Ici, ce « dès le commencement ». Cette expression « dès le commencement » fait le lien avec l'origine de l'humanité par allusion et souligne l'origine du christianisme. Comment ne pas faire le lien avec cette expression et Genèse 1, verset 1. Au commencement, dès le commencement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, le commencement de l'humanité. Et comment ne pas faire le lien avec Jean 1, 1 ? Jean 1, 1 qui dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » L'origine du vrai christianisme, c'est le Fils de Dieu, qui est à l'origine du monde. Ce n'est pas un développement de pensée, une connaissance qui s'est petit à petit construite, qui a amené le Dieu que nous connaissons à l'existence et à se développer. C'est pas tout à coup quelqu'un qui a une idée, il a dit « Ah ben Dieu, il est comme ça », après il y a quand même une autre idée, il a amené « Dieu, il est peut-être un peu comme ça », puis non. Dès le commencement, Dieu est ce qu'il est. Nous pouvons apprendre à le connaître mieux, à découvrir des facettes de Dieu, mais cela ne le façonnera pas, cela ne le changera pas. Il est comme il est, et nous pouvons entrer en relation avec lui. Il est comme il est dès le commencement. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas des idées, etc. C'est simplement parce qu'à l'époque, il y avait cette notion. Et à l'époque, encore aujourd'hui, combien de personnes nous disent « Mais c'est vous qui avez inventé Dieu. C'est venu petit à petit. » Non. Dès le commencement, il était là et totalement. Le véritable christianisme peut remonter aux origines de l'Église avec le début de la vie humaine du Fils de Dieu. Donc le début de l'Église, quand Jésus est venu sur terre, c'est le début de sa vie humaine. Jésus humain n'a pas existé avant. Mais on peut revenir jusque-là sans avoir peur qu'il y ait un changement. C'est toujours le même évangile. Il n'a pas pris une seule ride. Il n'a pas été transformé. C'est le seul, l'unique, le véritable, le seul moyen pour recevoir la vie éternelle. Et le véritable christianisme peut remonter à l'origine de l'histoire de l'humanité. Car le Fils de Dieu, dans sa divinité, était déjà présent. Il est écrit dans Colossiens en parlant du Fils de Dieu, « Car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, tout subsiste en lui. » Et cela ne changera jamais, parce que l'origine ne peut pas être modifiée. L'origine ne peut pas être modifiée. Et ce n'est pas parce que vous apprenez à connaître diverses facettes d'une personne. Par exemple, ce n'est pas parce que vous apprenez à connaître différentes facettes de Napoléon qu'il va changer. En fait, vous ne faites que découvrir des choses qu'il est déjà. Ce n'est pas parce que vous découvrez de nouveaux détails dans un tableau, quand vous l'observez attentivement, que le tableau a changé. Vous êtes d'accord ? Vous le regardez, tout à coup vous trouvez des choses nouvelles dans ce tableau, mais le tableau n'a pas changé, c'est vous qui avez une perception qui a changé. Vous n'avez simplement pas vu cela auparavant. C'est votre perception qui a changé, pas le tableau. Tout y était dès le moment où il a été accroché au mur. Dès le commencement. Donc le chrétien n'a pas peur de remonter l'histoire, parce qu'il ne se trouvera jamais devant une mauvaise surprise. Jésus-Christ est le fondement, la pierre angulaire de tout ce qu'il croit et de tout ce qu'il vit. Pas besoin d'avoir peur. C'est Jésus-Christ, notre fondement, dès l'origine, dès le commencement. Et le chrétien est relié à une nuée de témoins qui sont basés sur une même vérité qui ne changera pas et qui est la même dès le commencement. C'est une première étape pour vivre l'assurance. Ce qui était dès le commencement n'a pas changé et ne changera pas. Passons à un deuxième sujet, celui de la réalité qui est l'opposé de l'invention ou du mythe. Le vrai christianisme est lié à des réalités. Jean souligne que ses sens ont été utilisés, son ouïe, sa vue, son toucher ont été mis à contribution. Jean a entendu, a vu et a touché. Cela correspond à une réalité tangible. Ce n'est pas un mirage, une idée, une vision, une vue de l'esprit, une construction de pensée, une fabulation, un rêve, une fiction ou une imagination, parce que rien de tout cela ne peut être à la fois vu, entendu et touché. Non, Jean a entendu, vu et touché, et cela correspond à une réalité tangible. Le Fils de Dieu incarné, c'est-à-dire devenu homme, est une réalité et Jean en est témoin. Jean a voyagé avec Jésus. Il a mangé les pains et les poissons multipliés. Ce n'étaient pas des idées qui ont rempli son estomac. Il a bu le vin transformé. Il a vu et entendu Jésus calmer les tempêtes. D'ailleurs, par rapport aux tempêtes, il a pu ressentir la différence entre le moment où il y avait la tempête, où la barque était menée par les vents et par les vagues, Et dès que Jésus a arrêté la tempête, c'était calme. Il a pu se rendre compte de cette différence. C'était une réalité. Il a contemplé celui qui était assis sur un ânon et qui est entré à Jérusalem sous les acclamations. Il a mangé avec lui. Il s'est même penché sur lui lors du dernier repas où il reposait même sa tête sur lui. Il l'a vu souffrir à la croix et il l'a entendu. Et il l'a même entendu et vu manger une fois qu'il était ressuscité. Jésus a entendu, a vu et touché Jésus, qu'il appelle ici la parole de la vie éternelle, le Fils du Père, Jésus-Christ. Et vous savez, ce n'est pas parce que moi je ne l'ai pas vu personnellement que je ne peux pas être témoin d'une réalité passée. Car imaginez que votre grand-père vous raconte donc quelque chose qu'il a vécu, hein, et il a vécu à côté d'un roi qui avait un château. Il a vécu donc avec un roi qui avait un château. Et il vous décrit les lieux. Vous pouvez d'ailleurs aller visiter les lieux. Ils existent. Et il vous écrit les paroles que le roi lui a dites. Et dans ce livre qu'il a écrit, il décrit encore comment cette relation était vécue entre lui et ce roi et tout ce qui se faisait dans la cour. Et vous avez même pu constater que d'autres personnes ont aussi écrit sur ce sujet et que cela correspond à ce que votre grand-père vous disait. À la mort de votre grand-père, vous devenez les témoins de la vie réelle de votre grand-père. C'est vous les témoins. Et à votre mort, ce sera vos enfants qui peuvent d'ailleurs toujours se référer aux écrits du grand-père. C'est la lignée de témoins, si vous voulez. Et dans la lignée de témoins, nous pouvons être témoins de choses que nous n'avons pas vues parce que nous avons reçu le témoignage de quelqu'un qui l'a vu. Et donc nous sommes, nous, ensuite aussi, des témoins. Vous savez, le chrétien ne s'appuie pas sur une pensée philosophique. Il s'appuie sur une réalité d'une incarnation qui est attestée par des témoins. Le christianisme, ce n'est pas des pensées philosophiques. C'est un témoignage de choses qui se sont réellement passées. Donc le chrétien ne s'appuie pas sur une pensée philosophique, mais sur une réalité d'une incarnation qui est attestée par des témoins. Ce n'est pas l'homme qui a inventé un Dieu. C'est Dieu qui est extérieur à l'homme qui s'est manifesté dans la réalité de l'homme. Jean a pu l'entendre. Il a pu le voir. Et le toucher, c'est une réalité, et nous pouvons même en être témoins. Cela signifie également que Dieu, qui est extérieur à nous, peut agir encore aujourd'hui, selon sa volonté, et que nous pouvons encore en être témoins, encore aujourd'hui. Et chacun d'entre vous pourrait exprimer des choses que oui, Dieu a agi dans ma vie, voilà un élément qui en témoigne. Si une première étape de l'assurance était que le chrétien pouvait remonter l'histoire sans être déçu, un deuxième sujet nous a montré que son assurance repose sur des réalités. Et la troisième vérité que j'en souligne, c'est que cette réalité est liée à une personne. Le vrai christianisme est centré sur une personne. Jean parle, regardez au verset 1 de 1 Jean 1, Jean parle de la vie, concernant la parole de la vie. Au verset 2, il parle de la vie qui a été manifestée. Et il dit que cette vie était auprès du Père. Et au verset 3, il indique clairement que celui qui est avec le Père est son Fils, Jésus-Christ. Donc dans ce texte, la vie éternelle, celui qui est auprès du Père, en fait parle toute de la même personne, de Jésus-Christ. C'est lui le centre de notre attention. C'est lui qui a changé la vie de Jean. Et il ne vit plus que pour être témoin de Christ. Il est son disciple. C'est d'ailleurs pour ça que les premiers croyants ont reçu ce sobriquet de chrétien. Chrétien qui veut dire disciple de Christ ou partisan de Christ. Mais non, ça semble naturel. Parce qu'on l'a déjà tellement entendu ce mot. C'était pas si naturel à l'époque. C'était un sobriquet. Ce que Jean a entendu, vu et touché, est une personne. Et cette personne est vivante. Parce que Jésus-Christ, s'il est mort à la croix pour subir le jugement de Dieu sur les péchés, est ressuscité. Nous sommes dimanche, et nous nous retrouvons le dimanche, parce que le dimanche nous rappelle la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous parle d'une personne, et cette personne est vivante. Jésus est la source de la vie, et ses paroles mêmes que nous trouvons dans la Bible sont source de vie. Il dit, les choses arrivent. Vous avez déjà pensé à ça? Jésus dit quelque chose, elles arrivent. Par exemple, il dit que celui qui se repent et qui croit est libéré de ses péchés et purifié. Il dit, et cela arrive. Par exemple, pour la libération des péchés. Le christianisme n'est pas un amas d'idées, de pensées plus ou moins structurées. Non, le christianisme est centré sur une personne, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour son peuple. Une personne qui a donné sa vie pour son peuple. Une petite histoire qui m'a touché, l'histoire de Thibaut, qui nous aide à comprendre que le christianisme est centré sur une personne qui donne sa vie. Je vous la lis. Le jeune Thibaut, on ne sait sous quelle accusation, avait été arrêté, jugé et condamné à mort. Dans ses 30 troublés, la justice était expéditive. La veille de l'exécution, le père, par une faveur très rare, obtint l'autorisation de visiter le jeune homme qu'il trouva au bord du désespoir. Il fit de son mieux pour le consoler, et le jeune Thibaut finit par s'endormir, tandis que le père, oublié là par le gardien, passait la nuit à ses côtés. Bien avant l'aube, la clé grinça dans la serrure, l'appel du gardien retentit. « Thibaut !» Et le père, qui avait répondu « Présent !» fut emmené vers le lieu de supplice. Quelques minutes plus tard, le couperet de la guillotine faisait rouler la tête au pied du bureau. Quand le jeune Thibaut s'éveilla, tout étonné de trouver la porte de sa cellule ouverte, il se rendit au bureau où on lui signifia qu'il était libre, puisque le nommé Thibaut avait été exécuté au petit jour. Combien l'amour de ce père se sacrifiant pour son enfant nous touche. L'amour, ça représente l'amour de Jésus mourant à notre place sur la croix. Est-ce que cela ne nous touche pas? L'apôtre dit, il s'est livré lui-même pour moi. Nous étions perdus, loin de Dieu, mais Christ a pris sur lui tout le poids de notre jugement et désormais nous sommes libres, graciés, sauvés. C'est ainsi que nous pouvons dire que Jésus est notre vie éternelle. Le christianisme est centré sur une personne qui a donné sa vie et qui est ressuscité. Le chrétien cherchera donc toujours à mettre Jésus-Christ au centre de toutes ses réflexions. Il réfléchira à toutes sortes de sujets, parce que la foi touche tous les domaines de la vie. Mais il le reliera toujours à une personne, à Jésus-Christ. C'est cette relation avec Jésus-Christ vivant qui déterminera tout ce que le chrétien fera. C'est cette relation avec Jésus-Christ qui est vivant qui déterminera tout ce que le chrétien fera. Donc si l'origine n'est pas un problème, que cela repose sur une réalité et qu'une personne est au centre du christianisme, ce qui est manifesté est aussi proclamé et partagé. C'est notre quatrième sujet que nous trouvons dans ce préambule de 1 Jean. Le vrai christianisme rend témoignage et annonce la vie éternelle. C'est l'apôtre Jean qui le souligne ici. Ce qui est vu, entendu, est annoncé. Nous l'avons vu, verset 2, hein, nous en rendons témoignage, nous vous l'annonçons. C'est une marque du christianisme véritable. Mais que veut dire témoigner? Alors j'ai un petit peu cherché pour comprendre ce terme, témoigner. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? J'aimerais vous donner quelques éléments qui me paraissent intéressants pour un peu élargir notre compréhension de cette notion. Témoigner, c'est révéler ce que l'on sait. Témoigner, c'est révéler ce que l'on sait. C'est faire une déposition de ce que l'on a vu, de ce que l'on nous a dit. C'est donc faire connaître. Témoigner, c'est révéler ce que l'on sait. Témoigner aussi, c'est confirmer la vérité, la valeur de quelque chose. C'est donc dire ce que cela change dans notre vie. Témoigner, c'est confirmer la vérité. Troisièmement, témoigner, c'est attester, c'est-à-dire donner des preuves tangibles de la réalité, de la vérité ou de la véracité d'une chose. c'est donc relever tout ce qui montre que Jésus est une réalité. Par exemple, que nous sommes en l'an 2018 après Jésus-Christ. 2018 après Jésus-Christ, cela est un élément qui atteste. Évidemment, ce n'est pas la seule chose, mais ça fait partie d'un témoignage de l'attestation. Donc témoigner, c'est révéler, témoigner, c'est confirmer, témoigner, c'est attester, témoigner, c'est déclarer quelque chose. L'assurer comme réel pour en avoir été le témoin, l'observateur. C'est donc, dans un sens pour nous, se réjouir des changements de vie opérés par Jésus-Christ. C'est parler des personnes qui n'avaient aucun sens dans leur vie et à qui Dieu a donné un sens. Nous pouvons parler de nos propres témoignages ou de ceux des autres. J'ai été marqué par plusieurs personnes qui ont changé même d'aspect, de manière d'être, parce que Dieu les a changés. Témoigner, c'est déclarer quelque chose. Et dernièrement, témoigner, c'est certifier, rapporter un fait démontrant la vérité. C'est vivre ce que nous disons. En Jésus-Christ, nous sommes réellement libérés de la servitude du péché. Il nous lave, il nous purifie. Il nous pardonne et ainsi nous donne la capacité de pardonner également. Donc le fait que nous pardonnons à l'autre est aussi un témoignage de l'œuvre de Dieu. Un témoignage que ce qu'il a fait est une réalité. Donc témoigner, c'est révéler, confirmer, attester, déclarer, certifier. Jean a vu, entendu, touché, il en rend témoignage. Et il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est le fondement, le moteur, le but du vrai christianisme. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a fait une découverte? Il a découvert quelque chose de juste génial. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous en parle. Il en parle. Il en parle à qui veut l'entendre. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est fan d'une équipe de sport qui vient de gagner le match, mais vraiment le match du siècle, qu'on dirait, hein? Et en plus, il y était. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne en parle même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Surtout s'il était là. Oh, des choses plus simples encore. Avez-vous déjà rencontré un collègue sympa qui, en fait, vient d'apprendre qu'il y a l'apéro vendredi? Qu'est-ce qu'il fait? Il vous le dit. Il vous en parle. Et celui qui a découvert la vie, la délivrance, la délivrance d'une conscience mauvaise qui a été purifiée, la joie d'une espérance vivante, le privilège d'apprendre à connaître le Créateur qui s'est incarné. En avez-vous déjà rencontré? De quoi ont-ils témoigné? Que vous ont-ils annoncé? Si le chrétien fortifie son assurance en partageant ce qu'il a reçu et en annonçant la vie éternelle, il fait cela comme Jean pour un but. Et c'est ce que nous lisons dans les versets 3 et 4 pour notre dernier sujet. J'aimerais vous relire ces deux versets. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que, ça c'est un petit mot important, une liaison là, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. » Dernier élément, le vrai christianisme est une communion qui amène la joie. Pourquoi témoigner? Pourquoi annoncer? Eh bien, pour une communion dans la joie. La communion est une conséquence du vrai christianisme. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, et vous connaissez bien ce texte de Jean 13, 34, qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Car c'est en s'appuyant sur la communion qu'ils ont en Christ que les disciples vont s'aimer. C'est en nous appuyant sur cette communion que nous avons en Christ que nous pouvons nous aimer. Et les disciples de Christ sont reconnus à l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Ils vivent en communion, en commune union, si vous voulez, hein, qu'ils ont les uns envers les autres. Il se manifeste une sympathie profonde dans un accord qui plonge ses racines dans la pensée qui était en Jésus-Christ. Parce que ce qui nous unit, ce n'est pas ta pensée ou la mienne, c'est celle de Jésus-Christ. C'est une personne qui est le centre du christianisme. Là où il y a de la communion les uns avec les autres, la communion avec le Père et avec son Fils, il y a de la joie. Et un jour, nous vivrons cette joie parfaite et complète. Le psaume l'annonce déjà. Psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me fais connaître les sentiers de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. » La joie, c'est on pourrait dire un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté, la bonne humeur. On est satisfait et puis on le manifeste. Et il est intéressant de voir ici, verset 4, « Ceci nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. » La joie dont il est question dans 1 Jean est aussi celle de celui qui vit l'évangile de Jésus-Christ et voit l'autre le comprendre et pleinement le saisir. C'est pas juste « moi je vis l'évangile, je suis plein de joie ». C'est « je vis l'évangile et je vois l'autre, celui qui est à côté de moi, mon frère, ma sœur, le saisir également et le vivre ». Jean, quelque part, manifeste ici le cœur du pasteur ou de tout frère et sœur en Christ qui ne peut être complètement joyeux tant que ceux dont il est responsable n'expérimentent pas pleinement les bénédictions de l'Évangile. Car il sait que lorsque nous sommes unis en Christ, nous sommes dans la joie. Et c'est tellement bon, c'est tellement bon. C'est des choses qu'on a déjà pu vivre. Je me réjouis de me rappeler de ces moments et qu'on en vive toujours plus. Par exemple, on a vécu ça ici dans les temps de prière de jour de jeûne, par exemple, avec ceux qui étaient prêts à vivre une journée de communion pour Dieu. Mais quelle joie! On en est là, mais on est dans la joie du Seigneur. Parce que nous sommes en communion avec le Père, le Fils et ceux qui veulent aussi grandir avec lui. Vous avez déjà vu une roue de vélo avec ses rayons? Vous avez déjà vu une roue de vélo là, avec ses rayons, hein? Alors, les rayons à l'extrémité sont relativement éloignés les uns des autres. Et plus on se rapproche du centre de la roue, et plus, en fait, ils sont unis. Tous les rayons, en fait, se rejoignent autour de l'axe qui tourne. C'est ça, la communion. Et cet axe qui tourne, c'est Jésus-Christ, Dieu-homme. Et basé sur cette doctrine commune, nous pouvons vivre une communion paisible dans la joie du salut en Jésus-Christ. Vivons donc cet évangile, vivons cette communion avec le Père, le Fils et tous les véritables croyants. Ce sera pour chacun un puissant encouragement, une joie, un soutien pour l'assurance de son salut. Nous arrivons à la fin de cette première prédication sur 1 Jean. Qu'allons-nous retenir? Passe avec le micro là. Que vas-tu retenir? Eh bien, j'aimerais juste, en conclusion, nous rappeler les 5 éléments du prologue de cet épître qui nous aident à répondre à la question « Qu'est-ce que le vrai christianisme ?» Eh bien, le vrai christianisme n'a pas peur des origines, dès le commencement, il n'a pas peur. Deuxièmement, le vrai christianisme est lié à des réalités. Ça s'est vraiment passé, Jean l'a vu, l'a entendu, l'a touché. Et en plus, nous vivons encore des choses actuellement où Dieu agit. Troisièmement, le vrai christianisme est centré sur une personne, Jésus-Christ. Si nous parlons de l'évangile et que Jésus-Christ ne fait pas partie de nos paroles, ce n'est pas le christianisme. Le vrai christianisme est centré sur une personne, sur Jésus-Christ. Le vrai christianisme, quatrièmement, rend témoignage et annonce la vie éternelle. Cela ne reste pas enfermé, cela se manifeste. Et cinquièmement, le vrai christianisme est une communion qui conduit à la joie. Et dans un contexte qui ressemble à celui des lecteurs de l'Épître de Jean, qui étaient confrontés au syncrétisme, à la recherche d'un salut plus sophistiqué, soit intellectuellement ou sentimentalement, il est bon de revenir à l'origine, à l'essentiel. Il est bon de revenir à Jésus-Christ, notre seul maître, notre Seigneur, est le seul moyen d'unité. J'aimerais terminer par relire ces 4 versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Prions. Dès le commencement, Père, c'est tellement bon de savoir que même si nous allons chercher le plus loin possible, nous n'avons pas une mauvaise surprise à attendre. Parce que dès le commencement, tu étais là. Dès le commencement, Jésus-Christ est cette pierre de l'angle. Nous sommes dans la reconnaissance, notre Seigneur et notre Dieu, parce que cela nous indique aussi que il n'y a pas à comprendre des choses cachées que seules quelques personnes intelligentes pourraient cerner, ou seules quelques personnes illuminées ou initiées pourraient saisir. Non, dès le commencement, tout est là. Quelle grâce. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci parce que c'est toi qui as permis que l'apôtre Jean te voit Jésus-Christ vivant et nous transmette ce témoignage puissant. Merci parce qu'il nous a écrit cela afin de nous guider, de nous rassurer, de nous pousser vers toi pour t'aimer encore plus. J'aimerais te prier, Père, que nous puissions vraiment entrer dans ce chemin de communion avec toi, avec ton Fils Jésus-Christ, et que nous puissions le vivre ensemble. C'est tellement bon. C'est tellement bon de vivre dans la communion. Une communion qui ne vient pas de nous, une communion qui n'est pas inventée, qui n'est pas construite par nos propres forces, mais une communion que nous trouvons en Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, notre Frère. Seigneur, nous te remercions parce que auprès de toi, nous avons les sources de la vie. Eh bien, permets que nous puissions être une église où nous vivons cette communion et où réellement la joie se manifeste. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.